Aujourd'hui, avec les moyens modernes de faire la guerre, on n'est en sécurité nulle part, ni dans l'espace intersidéral, ni au fond des océans. Mais dans l'Antiquité, il était possible de trouver un refuge sûr dans une ville fortifiée si elle était également bien alimentée en eau et en victuailles. C'était le cas de Babylone, protégée par des murailles qui étaient tellement larges qu'elles auraient permis à deux chariots attelés de quatre chevaux côte à côte de s'y croiser sans se gêner. De plus, la ville était traversée par un fleuve et possédait 20 années de provisions à l'intérieur de ses murs. Il n'est donc pas étonnant que son roi assiégé fasse la fête d'une part pour narguer ses ennemis et d'autre part pour soutenir le moral de ses troupes et dissiper tout sentiment défaitiste. Comme tant d'autres avant lui, il fait une hypertrophie du moi. Il est dans un état second, intoxiqué par lui-même et il est convaincu qu'il est en parfaite sécurité et à l'abri de tout danger. Il me fait penser au Titanic dont on avait dit « Même si Dieu le voulait, il ne pourrait pas faire sombrer ce navire. » Je continue à lire dans le chapitre 5 du livre de Daniel. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Verset 2. Contrairement aux autres nations, les femmes participaient au banquet babylonien, mais ce n'était pas seulement pour manger et boire. Bon, je ne vais pas faire un dessin. Quant à Balthazar, il n'était pas le fils proprement dit de Nabuchodonosor, mais de Nabonide, le roi officiel de Babylone. Le titre de père donné au fondateur de la puissance babylonienne revient à plusieurs reprises dans ce chapitre. Il sert à faire ressortir le lien étroit de solidarité qui unissait le premier grand monarque des Babyloniens au dernier. De plus, Nabonide avait épousé une fille de Nabuchodonosor, ce qui faisait de Balthazar un petit-fils du grand empereur. Or, on trouve dans les Écritures beaucoup d'exemples où le mot « père » désigne un ancêtre. Je continue. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 3. La conduite de Balthazar est d'autant plus outrageante qu'il sait très bien qui est l'Éternel, parce que son grand-père l'avait reconnu comme le seul Dieu véritable, qu'il l'honorait et le louait, et d'autre part, même lorsque Nabuchodonosor, en tant que païen idolâtre accompli, avait détruit Jérusalem, il s'était conduit d'une manière respectueuse envers la vaisselle sacrée du temple. C'est vrai qu'il l'avait déposée dans la maison de Bel, son dieu d'alors, mais il ne s'en était jamais servi. Mais Balthazar, lui, avait résolument décidé de profaner ses coupes sacrées et de dénigrer ainsi l'Éternel. En organisant ce banquet, le roi a tout d'abord montré son mépris pour ses ennemis qu'il croyait incapables de prendre Babylone. Maintenant, c'est envers le dieu des Hébreux qu'il se montre dédaigneux. Excité par le vin, ses dignitaires présomptueux manifestaient l'insolence moqueuse d'une bravade envers l'Éternel. D'après la suite du texte, il semble bien que Daniel avait mis le roi en garde contre son arrogance et son idolâtrie, mais sans succès. Dommage pour lui, car un proverbe dit « Celui qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. » Je continue notre texte. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Verset 4. Ce qu'ont fait Balthazar et ses convives est une insulte grave, un soufflet et une double profanation du nom de l'Éternel. Ils se sont servis des coupes qui lui étaient consacrées, à la fois pour une beuverie partouze et pour boire à la louange de fausses divinités. Sans doute essayaient-ils aussi d'invoquer leurs idoles afin qu'elles les délivrent de leurs ennemis. Balthazar agit dans l'esprit de son père Nabonide, qui s'était donné beaucoup de mal à réhabiliter les dieux traditionnels babyloniens. Mais en bon païen, Ils ont travesti leur débauche en actes d'adoration et voilé leur blasphème dans la religion. Je continue. À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Verset 5. Dans Babylone, les archéologues ont mis à nu une grande salle de 55 mètres de long et 18 de large, dont les murs étaient enduits de plâtre et qui auraient pu accommoder 1 millier de personnes. Ces murs étaient probablement ornés ici et là de tableaux comme l'étaient les appartements qu'on a mis à jour des palais de Ninive, la capitale des Assyriens. Un grand chandelier éclairait la table du roi en même temps que la partie du mur sur laquelle la main est apparue, de manière à ce que tous les convives puissent la voir. Cette main est d'autant plus effrayante qu'elle est animée de sa propre vie, mais n'appartient à personne. Des mains babyloniennes ont défié l'Éternel en profanant les coupes qui lui étaient consacrées. Sa réponse ne se fait pas attendre. Ici, Dieu ne parle pas par l'intermédiaire d'un rêve ou d'une vision parce qu'il n'a pas l'intention de parlementer avec Balthazar, mais seulement de laver l'affront qu'il a subi. Cette main qui dessine sur le mur rappelle un incident de la vie de Jésus. Un jour, les chefs religieux lui ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère afin qu'il approuve sa mise à mort. Mais sa réponse a été d'écrire sur le sol. Dans ces deux cas, une main divine écrit. Seulement ici, Dieu signe l'acte de condamnation à mort de Balthazar, tandis que dans l'Évangile, Jésus a pardonné à la femme adultère. Je continue. Alors, le visage de Balthazar devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Verset 6. Quel tableau que de voir cet homme pris de panique alors que quelques instants plus tôt il bravait et profanait l'Éternel. Mais maintenant il est tout tremblant dans la plus grande détresse, debout à observer cette main qui dessine lentement et d'un geste sûr des signes incompréhensibles. Cette scène a lieu sous les regards stupéfaits de tout le gratin de l'Empire. Je continue. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et fit dire aux sages, « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Verset 7. Non seulement le roi tremble de tous ses membres, mais il pousse des cris d'effroi appelant tous ses sages à son secours. Comme pour l'interprétation du second rêve de Nabuchodonosor, Daniel ne paraît pas en leur compagnie et il ne dit jamais dans le livre quelles furent ses occupations pendant les règnes des successeurs du grand empereur. Le vêtement de pourpre était une distinction royale ou princière. Dans l'Antiquité, Babylone était aussi célèbre que la ville de Tyr pour ses étoffes de pourpre. La chaîne d'or a une valeur monétaire certaine. Mais c'était surtout un signe de la faveur royale. L'heureux déchiffreur occupera également la troisième place dans le gouvernement du royaume, après Nabonide, le roi en titre, et son fils Balthazar, le vice-roi. Je continue. Tous les sages du roi étant entrés dans la salle, aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Verset 8. C'est le troisième revers essuyé par les sages du royaume. Ça commence à bien faire et on se demande à quoi sert cette compagnie fort coûteuse à entretenir. Ce qui apparaît sur le mur ne sont pas des mots araméens, phéniciens ou hébraïques, car les sages auraient su les lire. Il s'agit plutôt d'une écriture idéographique genre hiéroglyphe et qui était incompréhensible sans une illumination divine. Je continue. Alors le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage et ses hauts dignitaires furent très troublés. Verset 9. Comme le mystère s'épaissit, le roi panique davantage. Il a raison de penser que si personne n'arrive à lire ses dessins, c'est qu'ils sont de mauvais augure. Je continue. Quand la reine fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit « Que le roi vive éternellement !» Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. » Verset 10. Cette reine ne peut pas être l'une des femmes du roi qui assistait au banquet, car elle parle avec une autorité que n'avaient pas en Orient les épouses des souverains. Seule une reine veuve d'un roi défunt ou la mère du souverain régnant pouvait montrer une telle hardiesse, une telle assurance et décider d'elle-même de pénétrer dans la salle du banquet et de prendre les choses en main. Il pourrait s'agir soit de la mère de Balthazar, qui était une fille de Nabuchodonosor, qui avait épousé Nabonide, le roi en titre, soit de la veuve du grand empereur, car ce dernier n'était mort que depuis 23 ans, et les femmes se mariaient très jeunes en Orient. En tout cas, la reine se veut rassurante, car elle détient la solution du problème. Je continue. « Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. » Verset 1. Cette reine connaissait très bien Daniel et Nabuchodonosor, ce qui montre qu'il s'agit de sa veuve. Le mot père n'indique pas une parenté directe, mais une relation proche. Nabuchodonosor est le grand-père de Balthazar par sa mère. D'autre part, et selon l'usage sémitique, fils de était l'équivalent de successeur de. Je continue. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belshazzar, possède un esprit extraordinaire de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles, que l'on appelle donc Daniel, et il te donnera l'interprétation. Aussitôt Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit, « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or, on vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Versets 12 à 16. Balthazar regarde le nouvel arrivant de très haut en l'appelant « ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda, c'est-à-dire le pays dont il méprisait le Dieu. Il ne devrait pas trop s'élever, car sa chute n'en sera que plus douloureuse. Toutes les récompenses qu'il offre à Daniel sont vaines de la baudruche, puisque la ville sera conquise cette nuit même par l'alliance des Mèdes et des Perses, et alors ce sera Cyrus, le nouveau patron de tout le Moyen-Orient. » Je continue. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, « Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. » Verset 17. Daniel est maintenant un vieil homme, car nous sommes en 539 avant Jésus-Christ et ça fait déjà 66 ans qu'il est exilé à Babylone. Il rejette les récompenses du roi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'a que faire de ce qui brille ou d'une position sociale, et ensuite ses cadeaux n'ont aucun sens parce que les dés sont jetés. Le roi Balthazar et l'empire babylonien vivent leur dernière nuit. De plus, quand Dieu règle ses comptes, l'heure est grave et n'est pas aux récompenses. Ce rabrouement devait préparer le roi à ce qu'il allait entendre. Je continue. « Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nabuchodonosor ton père la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. » Versets 18 et 19. Daniel donne une leçon de théologie au roi Balthazar. Il lui enseigne que l'Éternel est le Dieu souverain de l'univers, qu'il décide qui règne et c'est lui qui avait établi Nabucodonosor sur le trône. Je continue. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il élève à la royauté qui il veut. Versets 20 et 21. Daniel rappelle la raison du châtiment humiliant qui fut infligé au grand empereur et que cette démence dura jusqu'à ce qu'il morde la poussière et se repente en reconnaissant que le maître est le Dieu Très-Haut et non pas celui qui est assis sur le trône. La maladie de Nabucodonosor, qui s'est pris pour un bœuf pendant 7 ans, n'était pas connue de la populace. Seule la famille royale, dont Balthazar et les serviteurs fidèles de l'ancien empereur, étaient au courant. Je continue. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant tu n'as pas gardé une attitude humble. Verset 22. Là, Daniel ne fait pas un sermon diplomatique. C'est sans ménagement qu'il pointe un doigt accusateur sur Balthazar parce qu'il avait résolument décidé de ne pas rendre gloire à l'Éternel. Je continue. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple, puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien, mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Versets 23 et 24. Non seulement Balthazar a décidé en toute connaissance de cause de ne pas reconnaître l'Éternel comme le seul Dieu véritable, mais il a également choisi de l'insulter en profanant les objets qui étaient consacrés à son culte. Le roi a commis un sacrilège envers le Dieu de l'univers, un crime de lèse-majesté qu'il va payer de sa vie. L'Éternel punit sévèrement ceux qui connaissent la vérité, mais choisissent de la rejeter. Cette attitude de mépris à l'égard de la révélation que Dieu donne est condamnée dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul qui, en parlant de l'Antéchrist, écrit que l'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Fin de citation. En décidant de ne pas accepter la souveraineté de l'Éternel, Balthazar avait rejeté la vérité. La conséquence est qu'il croyait aux mensonges que représentent les idoles devant lesquelles il se prosternait. Je continue. Voici ce qui a été tracé. Mené, mené, tekel, uparsin. Verset 25. L'inscription se composait seulement de 4 mots, mais cette concision sèche et incisive n'annonçait rien de bon. Mener est le participe passé du verbe compter. Il est répété 2 fois pour bien montrer que le compte est fait. Tekel est aussi un participe passé qui veut dire peser. Uparsin est formé de la conjonction coordination et qui précède le mot parsin qui signifie briser au pluriel. Je continue le texte. Et voici l'explication de ces mots. Mener. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Versets 26 et 27. Dieu a compté le nombre de jours restant au royaume de Balthazar et c'est terminé. Quant au roi, il a été pesé, évalué et trouvé léger. À cette époque, l'argent était en métal et sa valeur se mesurait avec une balance. Ici, c'est le caractère moral et religieux de Balthazar qui a été pesé et il ne fait pas le poids voulu. Je continue. Pérès, ton royaume sera brisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 28. Comme les caractères dessinés sur le mur sont idéographiques, Daniel ne les lit pas mais les déchiffre. Alors que précédemment il a dit que le dernier mot était Parsine, un pluriel, maintenant il dit Pérès, qui est un singulier, afin qu'il y ait assonance avec le mot Paras, qui veut dire le Perse, une référence à Cyrus. Le message est simple mais brutal. À cause de la dépravation de Balthazar, Dieu met fin à son empire et le donne aux Mèdes et aux Perses. Je continue. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Verset 29. Chose promise, chose due. En fait, Balthazar espère qu'en récompensant le serviteur de l'Éternel, il pourra obtenir de cette divinité puissante le retrait de la sentence. Mais quand le sablier est vide, le couperet tombe. Pour moi, c'est pareil, et je sais que la dame à la faux n'oubliera pas un jour de venir frapper à ma porte. Mais comme j'ignore le nombre de grains de sable qu'il me reste, je devrais prendre à cœur les paroles du psalmiste qui dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse ».